Amen, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Est-ce que c'est vrai ce que vous venez de chanter dans ta présence, la présence de Dieu? Ô Jésus, ta présence. Alors je voudrais relire un texte qu'on a lu tout à l'heure avant d'introduire le moment de prière. Dans le Proverbe au chapitre 20, verset 13, il y a une exhortation qui, je le crois, correspond à quelqu'un qui ce soir a besoin de se restaurer. Est-ce que vous savez qu'à des moments on a vraiment besoin d'être restauré? Vous le savez, à des moments, on a vraiment besoin de restauration. Et le Seigneur est capable de le restaurer, croyez-moi. Dans le Proverbe 20, au chapitre 13, au verset 13, voilà dont nous allons lire ce verset. « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. » C'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse. « Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Bien sûr qu'il n'est pas question des yeux physiques, et pas du pain matériel, il est question de choses spirituelles. S'il y a une chose que Dieu veut, c'est que nos yeux soient ouverts, que nous voyions les choses comme il veut que nous les voyions. Et s'il y a bien une chose que le diable veut, c'est bien nous aveugler et nous maintenir dans cet aveuglement. Rappelez-vous cette parole de Jésus à l'Odyssée, « Tu ne sais pas que tu es aveugle ». Une ville, une église qui vivait vraiment dans les œuvres. Et croyez-moi, s'il y a bien une chose que Dieu peut faire, c'est ouvrir les yeux. C'est important que ce soir, nous ressortions avec cette abondance de grâce, que nos yeux soient, que notre cœur soit rassasié. L'êtes-vous? Le sommes-nous? Ou en sommes-nous de notre appétit spirituel, de notre satiété spirituelle, etc. Est-ce que je peux dire ce qui est écrit dans le psaume que je rappelle souvent, il restaure mon âme? Ou est-ce que je suis pauvre? Est-ce que je suis spirituellement misérable, tout le temps démuni, tout le temps en train de voir ce qui ne va pas? Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en vrac. Je ne sais pas si on peut le dire, ça. On le dit, on peut le dire. Il y a des gens, ils sont tout le temps mal, ils sont tout le temps découragés, et c'est des chrétiens. Il me dit, ben, monsieur Gou, c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Pourquoi? Eh bien, parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Ils ne voient pas les choses que Dieu voudrait qu'ils voient. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs l'ont prié, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ben oui, mais pour que Dieu ouvre nos yeux, il faut quand même le vouloir aussi. Vous vous rappelez quand il est dit de cette femme au bord de la rivière, vous vous rappelez comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait cette femme? Il est dit que Dieu lui ouvrit le cœur. Comment elle s'appelait? Lydie. Il nous est dit que Dieu lui ouvrit le cœur. Il y avait plein de femmes qui étaient en train de prier. C'est une image de l'Église. Des gens en train de prier. Plein de femmes. Et il est dit que Dieu n'a ouvert le cœur que d'une femme. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive. Pourquoi Dieu n'a-t-il ouvert les yeux que de Lydie? Pourquoi? Parce que Dieu fait du favoritisme. C'est pas ça? Vous êtes sûr que Dieu ne fait pas du favoritisme? C'est écrit ça, que Dieu ne fait pas de favoritisme? C'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Alors c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit dans Romains chapitre 2, verset 11. Devant Dieu, il n'y a exception de personne. On l'a lu dimanche. Vous étiez là dimanche? Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu ouvre le cœur de ceux qui ont soif, de ceux qui veulent. Dieu ne force personne, Dieu n'oblige personne. Alors je voudrais voir ce soir quelques textes sur lesquels Dieu pourrait ouvrir nos yeux. Alors on va lire un dans Ésaïe. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous devriez savoir quand même. Je pense que chacun est capable de dire, tiens, moi, mes yeux, j'ai la dernière fois, l'ophtalmo m'a dit que j'avais 9 sur 10 ou 6 sur 10. Vous savez quelle est la qualité de votre vue physique? C'est quand la dernière fois vous avez été voir un ophtalmo? C'est quand la dernière fois que vous avez eu besoin de changer vos lunettes? Non, mais sérieusement, on ne s'en occupe pas des yeux, mais nos yeux spirituels. Alors, on va lire un texte. Alors, faisons-le sérieusement, c'est sérieux, on est là pour s'occuper de notre âme, on est là devant Dieu. Il y a des gens qui ont le cœur ouvert, il y a peut-être que des gens qui ont le cœur fermé. Eh bien, demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux. Faites-le, sérieusement. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église que ça va bien, moi je vous le dis. Ésaïe 65, je sais de quoi je parle. Ésaïe 65, verset 17. Voilà. À des moments, Dieu révèle des choses. Il les révèle parce qu'on en a besoin. Si c'est écrit, on en a besoin. Ésaïe 65, verset 17. Regardez si c'est merveilleux. Ah, je peux vous dire que ce seul verset, il peut vous rassasier. Vous le croyez qu'un verset de l'Écriture peut vous rassasier? Ben lisez-le avec moi. Ésaïe 65, verset 17. Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Et tout le monde dit Amen. Amen. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le verset 22 du chapitre 66. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. On peut aller dans l'Apocalypse, hein? Vous aimez lire l'Apocalypse? Moi, j'aime ce livre. Parce que quand même, moi, je me sens un peu concerné. Tout à l'heure, on lisait « Heureux ceux qui rentreront par les portes de la ville ». Moi, je m'y vois déjà, dans la ville. Vous y voyez des fois dans la ville? Est-ce que c'est mystique que de prendre le verset Apocalypse 22, verset 14? Vous allez me dire si je suis mystique ou pas. D'accord? Apocalypse 22, verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Afin d'avoir droit à l'arbre de vie, afin et d'entrer par les portes de la ville. Voilà. Est-ce que on peut s'imaginer, après tout, est-ce qu'on peut demander à Dieu de sanctifier notre imagination? Ben oui, ce n'est pas interdit. Dieu nous l'a donné. Heureux ceux qui rentreront par les portes de la ville. La ville, en plus, c'est de la ville. Hier, je regardais, parce que je pensais à ces versets, je pensais à la plus haute tour qu'il y a dans le monde en ce moment. Vous savez quelle c'est la plus haute tour qu'il y a dans le monde en ce moment? Je crois que c'est au Brunei, je ne sais plus dans quel pays arabe c'est. Elle fait 825 mètres de haut. 825 mètres de haut. Moi, j'ai regardé la construction de cette tour pour voir les fondations, etc. C'est impressionnant, vraiment. Et ils vont en faire une, dans un pays arabe, de 1000 mètres, d'un kilomètre de haut. C'est hallucinant, là. L'ingéniosité qu'il faut pour créer une... Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un kilomètre d'eau, c'est des proportions. Il faut des centaines de millions de mètres cubes de béton, des fondations. Technologiquement, c'est quelque chose de prodigieux. Mais ce sont des rigolos. À côté de la ville que nous, on va avoir. Je ne sais pas si vous avez vu la ville que Dieu va créer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça ne va pas être 1000 mètres de haut avec l'orgueil des hommes. Ça va être, en toute humilité, une ville en or massif, 2000 kilomètres de haut. Vous me suivez? 2000 kilomètres de large, 2000 kilomètres de côté, 2000 kilomètres de haut. Voilà la ville dans laquelle l'Église... L'épouse. Parce qu'il y a quand même une différence dans l'Apocalypse entre l'épouse et l'Église. L'épouse sont tous les chrétiens qui seront prêts lorsque Jésus va revenir chercher les siens. Et bien ces gens-là, ils rentreront par les portes de la ville, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi quand je vois commencer, moi ça m'intéresse. Et les chrétiens, ils doivent voir ces choses. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié. Vous savez, le Seigneur, il a laissé ses textes, il y en a plein. On vient d'en lire trois, tout simple. Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On a besoin de le savoir. Si c'est dans la Bible, c'est parce qu'on a besoin d'espérance. On a besoin d'espérance. Ça fait partie des choses qui doivent demeurer dans le cœur d'un chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle de l'amour? Il dit, en terminant le chapitre, voici, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais bien sûr, s'il n'y a pas d'amour, c'est comme s'il n'y a pas d'huile dans un rouage, ça grince toujours, même s'il y a tous les rouages. Mais il n'empêche une chose, c'est qu'un chrétien doit être rempli d'espérance. Est-ce que c'est écrit que le Dieu vous remplisse d'espérance? Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux, lisons ces choses. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois le nombre de chrétiens qui sont malheureux. Le malheur, moi j'ai lu la Bible, je l'ai lu comme vous, j'ai la même Bible que vous. Le malheur, c'est pas pour les chrétiens qui ont leurs yeux ouverts. Le malheur, c'est pour les gens qui se confient en eux-mêmes. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, ça c'est le malheur. Ceux qui vont vivre la colère de l'agneau, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est d'une clarté totale. Il est parlé de malheurs, de grands malheurs qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que dans la Bible, il est parlé des gens qui sont malheureux. Malheur à l'homme qui marche selon le conseil, qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Voilà, si vous aimez vous moquer, c'est sûr que vous serez malheureux. Un moqueur, il ne peut pas être heureux. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous moquions des gens. Dieu nous a créés pour que nous bénissions les gens. Et les chrétiens, ils sont malheureux parce qu'ils ont cet esprit de moquerie, tout le temps en train de se moquer de l'un de l'autre. Ça ne s'appelle pas Dieu. Et il y a des choses qui provoquent le malheur, et il y a des choses qui provoquent le bonheur. Et quand vous lisez l'Apocalypse, c'est très clair. Il y a des choses qui provoquent le bonheur. Et il y a des versets qui ont été préparés par Dieu, tout est intelligent, pour que vous ayez de l'espérance. Oui, Dieu parle de choses nouvelles. On a besoin de ces choses. On a besoin de savoir que tout va changer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bientôt, on va y être. Vous le croyez, ça, qu'on va y être? Est-ce que vous le croyez vraiment? Bientôt, on va vivre ces choses. Et Dieu dit, voilà, j'ai créé des choses nouvelles, des nouveaux cieux. Alors, bien sûr, ça, hier, je me posais la question par rapport au temps. Parce qu'on est dans le temps, d'accord? Quand on sera dans l'éternité, il n'y aura plus de temps. Alors, voilà, ça, c'est une question. Mais il y aura un temps. Regardez, Apocalypse 22. Hier, je me posais la question. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y aura des mois. Est-ce que ce seront des mois, comme chez les Juifs, de 29 jours, ou chez nous, de 30 ou 31? Mais il y aura un temps, mais pas comme le nôtre. Mais il y aura des mois. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et plus on ouvre les yeux, plus on est rassasié. Et mes frères et sœurs, combien de fois Dieu le dit, mais pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Un chrétien, il doit avoir ce réflexe de dire, moi je veux être rassasié. Il y a des choses qui ne rassasient pas. Il y a un verset que j'aime beaucoup, moi c'est dans l'Apocalypse, dans l'Ecclésiaste 5:9. J'aime beaucoup ce verset. Il est dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Vous connaissiez ce verset? Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Heureusement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si l'argent rassasiait, Dieu aurait été injuste. Vous me suivez? Ça voudrait dire que ceux qui en ont sont repus, et ceux qui n'en ont pas, sont dans la disette. Un homme ne peut pas être rassasié par l'argent. Que le nom du Seigneur soit béni. Tant mieux s'il y en a, tant mieux si Dieu nous en donne, tant mieux si les réserves augmentent, c'est pas grave tout ça. Mais ne cherchons pas le bonheur là-dedans. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et Dieu dit qu'il nous rassasiera. Alors ça vaut la peine, peut-être que vous preniez une concordance, et que vous preniez ce verbe, ce mot, et que vous disiez, voilà, Seigneur, comment puis-je être rassasié? Comment puis-je être rassasié? Comment, dans ces temps difficiles où le malheur vient, où la colère vient, et tout ce qui se passe au Moyen-Orient, moi je peux vous dire que c'est, écoutez, il n'y a pas besoin d'être un prophète, que c'est la préparation de la colère de Dieu. Vous le réalisez? Et pour peu que vous connaissiez un peu les prophéties, laissez-moi vous dire que la colère de Dieu, elle vient, le malheur, il vient. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas destinés au malheur, nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés à la gloire, au bonheur, à la paix, à l'immortalité. Et moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, mais ouvre tes yeux. Et tu seras rassasié. Quand tu liras la parole de Dieu, tu seras fortifié. Demain matin, tu te lèveras, tu vas prendre un texte. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que tu veux que je voie, Seigneur? Eh bien oui, Dieu veut que votre cœur soit rempli d'espérance. Quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous croyez que c'est une blague? Ou vous croyez vraiment que Jésus a tout laissé, tout donné, tout annoncé à l'avance? Est-ce que Jésus l'a dit? Je voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Ah, mais tu ne m'as pas expliqué, Seigneur. Il n'y a pas écrit dans la Genèse si les jours de la création, là, ce sont des jours de 24 heures, ou des jours de 1000 ans, ou des jours de milliards d'années. Non, tu n'as pas tout expliqué. Écoutez, est-ce que ce n'est pas important? Ça, on s'en fiche. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a tout annoncé pour que votre cœur soit rempli d'espérance. Et nous devrions avoir cette honnêteté, car c'est grave, c'est remettre en question la parole de Dieu. Si le Seigneur dit que ceux qui ont faim et soif de justice, pas de vengeance, attention, ne mélangeons pas les mots, ceux qui ont faim et soif de justice, de ce qui est juste, de la vérité de la parole, ils seront rassasiés. C'est Jésus qui t'a dit. Et mon frère et ma sœur, si tu es pas rassasié, c'est peut-être que parce que tes yeux sont fermés. Soyons honnêtes, parce que vous savez, comme je l'ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gens supérieurs à d'autres. C'est écrit qu'il y a des gens supérieurs en sagesse, qu'il y a des gens qui sont devenus des maîtres alors que d'autres sont restés des enfants. Oui, il y a des progrès qui font qu'il y ait des différences, c'est évident. Mais au niveau de l'amour de Dieu, on est tous sur le même pied d'égalité. Au niveau de la bénédiction, on est tous sur le même pied d'égalité. Est-ce que quelqu'un peut devenir maître? Est-ce que quelqu'un peut devenir maître? Est-ce que c'est écrit? Vous devriez être des maîtres et vous êtes des enfants. On voit bien que Dieu voudrait que nous fassions des progrès, mais ces progrès, ils sont extrêmement liés au fait, justement, que nos yeux sont ouverts. Seigneur, je veux de l'espérance. Je veux pas de l'espérance les premiers mois de ma vie spirituelle, je suis content, Dieu m'a sauvé, je suis heureux. Il y a des gens, les premiers mois de leur conversion, c'est extraordinaire. Ils sont heureux, ils sont contents, ils sont merveilleux. Et puis, le temps passe et vous êtes, oui ou non? Alors que Dieu veut nous rassasier. C'est écrit quelque part, « Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. » Dieu rassasie un nouveau, et Dieu peut rassasier des personnes âgées. Oui ou non? Mais on est tous sur le même pied d'égalité. Et quand vous lisez le livre du Deutéronome, il le dit, mais si tu manges, si tu obéis, tu mangeras et tu te rassasieras. Il ne parle pas que des bénédictions matérielles. Mais bien sûr que le matériel, c'est évident. Mais Dieu parle des bénédictions spirituelles. Et frères et sœurs, franchement, moi j'ai de la peine, hein, quand je vois des chrétiens. Et pourtant, c'est normal, en même temps, de passer par des moments difficiles. Mais on ne doit pas rester dans les moments difficiles. Qu'est-ce que tu voulais que j'apprenne, Seigneur, là? Cette épreuve-là, ça fait 3 mois que je suis là, qu'est-ce que je devais apprendre? Ah, mais tu devais apprendre à ne plus critiquer. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend, oui ou non? On apprend, par exemple, quand on se convertit, est-ce qu'on a tout gagné d'avance? Non. Quand on se convertit, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut prendre des victoires? Quelle est la première victoire que vous avez prise quand vous vous êtes converti? Tiens, on va faire un petit sondage. Quelle est la première victoire? Vous vous rappelez pas? Vous étiez parfait? Non, mais ça me va bien. Moi, d'avoir que des chrétiens parfaits, ça me va très, 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 très bien. Mais moi, je me souviens, par exemple, une de mes victoires, c'était la grossièreté. Oui ou non? Vous n'étiez pas grossier avant votre conversion? T'as vu, c'est bien. Et moi, je me souviens, j'ai eu besoin de prendre la victoire. J'ai arrêté. Par exemple, je fumais. Est-ce qu'on a besoin d'une victoire, quand? Ben oui. Par exemple, on peut être jaloux. Et la jalousie, est-ce que ça fait partie de la vie? Voilà. Vous voyez? Etc. On prend des victoires. Mais il y a des gens, même, ils ont 40 ans de conversion, ils sont toujours jaloux. Ils ont 40 ans de conversion, ils discutent toujours les opinions. Alors qu'on le sait très bien, ne discutez pas les opinions. Vous voyez? Et le problème, il est là. C'est que les gens ne peuvent pas être rassasiés. Ils sont tout le temps morts, morts de faim. Tout le temps là, dans la disette, alors qu'il y a des choses extraordinaires, comme on l'a lu. Ouvre tes yeux! Je ne sais pas comment on lit la Bible, mais ça vaudrait la peine peut-être de dire, mais Seigneur, comment je la lis ta parole? Comment je lis? Je vais acheter un bouquin pour savoir combien de temps il me faut lire la Bible par jour. Il y a des bouquins comme ça, moi je suis contre ces trucs. Alors on va vous dire, voilà, mais écoutez, si vous voulez lire la Bible à 1 an, alors lecture de la Bible pour connaître la Bible à 1 an. Alors il vous faut lire 3 chapitres, 2 chapitres dans l'Ancien Testament et 1 chapitre dans le Nouveau Testament. Vous faites ça et au bout d'un an, vous aurez vu la Bible en entier. Voilà, faites comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux lire trois versets. Voilà, Seigneur, tu vas créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Seigneur, il y a des choses. J'ai besoin de choses nouvelles. J'ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin. Vous n'avez pas besoin de savoir que les choses vont s'améliorer, que... enfin, pas sur la terre, mais que vous allez avoir une maison dans le ciel, une belle maison sans poussière. Hein. Sans poussière, mes sœurs. Oui, le ciel, il n'y aura pas de poussière. Ça ne vous rassure pas, ça, les sœurs ? Pas d'aspirateur. Non, mais c'est vrai. Quand on parle des sentiers immaculés du ciel, il n'y aura pas de poussière aussi. Ça ne vous rassure pas ? Non, ça vous est égal ? Écoutez-moi, mes frères et sœurs, on a besoin. Le cœur, il doit être rempli d'espérance. On doit voir. Ouvre tes yeux. Ouvre-les quand tu lis la parole de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que... David le disait, mais ouvre mes yeux pour que j'observe les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je comprenne, quand je vais relire l'Apocalypse, ce que tu veux que je comprenne, ce que tu as préparé pour moi, ce qui va se passer. Oui, heureux les gens qui gardent ces choses. Ça vaudrait peut-être la peine. Hein? Franchement, est-ce que c'est hors de portée de prendre une concordance, d'imprimer tous les textes sur le malheur, tous les textes sur le bonheur, heureux et malheureux? Et tiens, quand est-ce que les gens sont malheureux? Franchement, est-ce que ces passages, c'est simple comme tout? Quand quelque chose nous plaît, on sait l'imprimer, non? Ça vous est jamais arrivé? Ah, il faut que j'imprime cette recette de la tarte à l'oignon parce que je veux la faire. Oui ou non? Est-ce que c'est pas vrai? Quand quelque chose nous plaît, est-ce qu'on l'imprime? Mes sœurs, vous avez jamais imprimé une recette de cuisine? Non? Moi, je sais que ma femme, des fois, elle le fait. Ah, il faut que j'imprime cette recette. Clac, clac. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse. Et bien, il y a des choses. Je veux savoir ce qui me rendra heureux. Heureux, ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. C'est vrai qu'il y a des temps. Il y a des temps difficiles. Il y a des temps où on peut traverser des moments difficiles. Même Job. Est-ce que Job a bien terminé sa vie? Est-ce que Job a bien commencé sa vie? Oui. Job a vécu longtemps. Après, vous avez vu combien de temps il a vécu après la naissance de ses 10 autres enfants? Combien de temps il a vécu? On va le lire. Non, mais mes frères et sœurs, il faut comprendre. Parce qu'il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mais il y a des temps qui peuvent se... Il y a des déserts qui peuvent s'allonger, et c'est dommage. Alors, regardez combien de temps Job a vécu après son malheur. Vous allez comprendre, ça fait partie de ma prédication. Tout est lié, regardez cet homme. Parce que la Bible en parle, comment il a terminé, comment il a bien terminé, etc., qu'il a été rassasié de bien. Job 42, verset 16. Regardez bien, après son épreuve... Job, vous y êtes ? Job 42, 16. Job vécut après cela, combien de temps ? 140 ans. Et il vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. Et pourtant, regardez au chapitre 9. Regardez au chapitre 9. Parce qu'il faut être honnête, il faut être honnête devant Dieu. Job 9, verset 18, regardez ce qu'il dit. Il est dans la souffrance. En plus, il y a trois amis qui vraiment l'encouragent. Job chapitre 9, verset 18, qui ne me laissera pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Vous voyez, il passe un moment, ça dure. Alors je ne sais pas, moi j'ai lu quelques commentaires. Apparemment, ça aurait duré plusieurs mois, cette affaire. C'est long quand même, plusieurs mois, avec tout ce qu'il a vécu. Bon, il a perdu ses 10 enfants quand même, c'est énorme, c'est terrible ce qu'il a vécu. À un moment donné, il est rassasié d'amertume. Mais regardez ses propos, regardez comment il est. Il a les yeux ouverts malgré sa souffrance, malgré sa amertume, malgré sa souffrance. Il réagit bien. Et Dieu va lui ouvrir les yeux, et Dieu va le bénir, et il va terminer rassasié. Il a commencé, il est rassasié, il traverse une épreuve terrible, il est rassasié d'amertume, mais ça va s'arrêter. Et puis il va terminer sa vie rassasié de grâce et de bonté. Vraiment, la Bible parle de la fin que Dieu lui a accordée. Mes frères et sœurs, Dieu doit nous accorder une fin dans la grâce. Je dois vivre dans l'espérance. Seigneur, mais ouvre mes yeux. Je veux être rassasié. Vous avez vu la dernière invitation dans l'église? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Vous voyez, pourtant l'église ne va pas bien. Elle a mis Jésus dehors. C'est vraiment honteux. Mais bon, mais Jésus, il est patient. Il est patient, il parle, il conseille, et il termine avec une invitation. Si quelqu'un entend ma voix, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, eh bien j'entrerai et ça va chauffer. C'est ça qu'il est dit ? Non, j'entrerai et je souperai avec lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Dans le grec, ça veut dire que le Seigneur, bien sûr, il va amener sa nourriture et il va nous rassasier. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. L'Église doit être rassasiée d'espérance, rassasiée de foi, rassasiée d'amour. Ouvre tes yeux. Mes frères et sœurs, que Dieu nous... On peut lui demander, Seigneur, ouvre mes yeux, il faut que je sois rassasié. Je veux être une bénédiction, tu m'as placé ici à Toulouse, tu m'as placé ici dans cette église, tu m'as placé dans ma famille. Moi, je veux nourrir les autres. Vous n'avez pas envie d'être une bénédiction, franchement, quand vous passerez devant Dieu. On va passer devant le Seigneur. Moi, hier, franchement, je me suis levé, dès que je me lève, j'ouvre ma Bible. Et je suis tombé sur ce texte, voilà, je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et cette prédication, elle est venue sur mon cœur, parce que je me suis dit, mais combien on a besoin de savoir qu'il y aura des nouvelles choses, de grandes choses, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de pleurs. On est dans un monde malheureux. Mais le chrétien, il peut surnager. Le chrétien, il peut s'élever au-dessus de cette souffrance et dire, Seigneur, moi, je veux être rassasié. Je veux être rempli d'espérance, parce que c'est ta volonté. N'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre espérance. C'est écrit plusieurs fois. Là aussi, je vous demandais de prendre une concordance, d'imprimer tous les textes sur le malheur, d'imprimer tous les textes sur le bonheur, mais on pourrait peut-être prendre la même concordance et surligner tous les mots qui parlent de l'espérance. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Oui, j'ai été rassasié d'amertume moi aussi. Oui, j'ai eu un conflit dans mon couple, j'ai eu un conflit au travail, j'ai eu un conflit peut-être même avec un chrétien dans l'église. Merci Seigneur. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à surmonter le mal par le bien. Seigneur, apprends-moi. Je veux être rempli d'espérance. Vous savez, il est parlé dans la Bible de ceux qui refusent la consolation. C'est Asaph qui dit dans un psaume, on va le lire parce que c'est intéressant. Dans le psaume 94, Asaph, il refuse. Vous savez, on peut refuser, il y a des gens qui refusent. C'est pour ça que Jésus disait, mais est-ce que tu veux être guéri? On pourrait dire, non mais n'importe quoi. Heureusement que c'est lui qui pose la question. Vous êtes d'accord avec moi? Comme c'est lui, on sait qu'il faut y réfléchir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Il y a des gens qui restent dans leur péché, dans leur amertume, dans leur malheur. Regardez Asaph. Asaph, il a passé un moment difficile. Mais en plus, c'est pas n'importe qui, Asaph. C'est un homme qui a été choisi. Il a fini prophète, en plus. Psaume 77, verset 3. Psaume d'Asaph. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme... Qu'est-ce qui se passe? Oui, cette frustration qui peut... Mon âme refuse toute consolation. Vous voyez ? Mon âme refuse toute consolation. Regardez psaume 94. Vous voyez ? Et là, c'est l'inverse. C'est David. Il est dans un autre combat. C'est pas facile. Quand vous lisez le psaume 94, là aussi, c'est pas évident. Mais à un moment donné, regardez. Verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc on peut les accepter, on peut les refuser. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous parler au travers d'un frère ou d'une sœur? Un frère qui vous dira, mais ne t'inquiète pas. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous utiliser quelqu'un? Seigneur, dire à quelqu'un, écoute, ne t'inquiète pas, confie-toi en Dieu. Et les gens refusent. Parce que ça vient de monsieur Untel ou de quelqu'un qui forcément n'a pas d'affinité avec nous. Mais si Dieu a décidé de vous parler par quelqu'un comme ça, ne refusez pas. Surtout que le Seigneur peut utiliser deux ou trois personnes pour vous dire la même chose en plus. Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Ne t'inquiète pas. Et il peut même utiliser quelqu'un qui s'inquiète. C'est pour ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il me dit, ne pas m'inquiéter. Oui, mais Dieu peut utiliser quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ne croyait pas au pardon. Écoutez-moi, ça m'a fait sourire. En même temps, ça m'enseigne ces choses. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui demandent pardon. Ils savent demander pardon. Ils savent demander pardon à Dieu. Mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Quand ils ont péché, ils se pardonnent. Il y a des gens qui sont méchants envers eux-mêmes. Et je me souviens de cette personne qui était questionnée par quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Et cette personne m'a dit, est-ce que Dieu peut me pardonner? Et la personne a dit, mais oui, mais bien sûr, le Seigneur est mort sur la croix pour pardonner tous les hommes. Et la personne qui disait ça n'arrivait pas à se pardonner. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des combats, des frustrations, mais une chose est certaine, il doit arriver à un moment donné, je dis, mais Seigneur, il faut que j'ouvre mes yeux. On est au temps de la fin, ça va s'aggraver. Je ne sais pas comment les choses peuvent s'accélérer, parce que ça peut traîner longtemps, comme ça peut s'accélérer. Moi, je pense que ces choses vont s'accélérer, parce que c'est écrit qu'à la fin des temps, le Seigneur accélérera. C'est écrit, hein? C'est écrit. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, on n'est pas capable de comprendre tout ça d'une manière totale. Mais une chose est sûre, même qu'elle s'accélère ou qu'elle ne s'accélère pas, parce que Dieu est bon, parce que Dieu sait ce qu'il fait, une chose est certaine, je dois dire, Seigneur, voilà, moi je veux comprendre les choses nouvelles. Je veux comprendre les choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles. Vous voyez, je rêve quand je ferme les yeux le soir et que j'imagine cette ville de 2000 km en or. Vous vous rendez compte? Quand on voit ce qui est écrit, quand il est dit, il y a des choses, peut-être que ça ne vous intéresse pas, sur, quand il est dit, on va le lire. Apocalypse 2, là, on n'est pas dans la ville, c'est un caillou. Quelqu'un pourrait me dire, monsieur, un caillou, franchement, un caillou, il y a peut-être mieux qu'un caillou. Hein. J'ai besoin d'autre chose. Bon, d'accord, on va y revenir. Alors, on va pas trop traîner, mais fait regarder. Apocalypse 2. C'est à l'église de Pergame, verset 17. Je ne sais pas ce... Apocalypse 2, 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. » Peut-être que vous me dites, « Monsieur, un caillou ?» Ouais, bon. « Un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Voilà, Dieu va vous donner un caillou blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Caillou. Petit caillou. Caillou, oui, bon, il n'y a pas mieux, monsieur. Moi, je ne sais pas ce qu'il représente, j'en sais rien. Mais je pense que ça va être quelque chose de merveilleux. Vous voyez, on le voit. Qui peut l'expliquer? Personne ne peut l'expliquer. Mais Jésus le dit. Et on a besoin, sur ce caillou, il y a un nom. C'est le nom qui correspondra à votre caractère spirituel, certainement celui que nous aurons eu sur la terre. Quel est votre caractère spirituel? Je ne sais pas, en tous les cas, ça va être d'une précision, d'une beauté extraordinaire. Ce sont des choses nouvelles. Il y aura plein de choses nouvelles. Et je crois que ça vaut la peine de dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux, Seigneur. J'ai besoin d'espérance. Je veux être rempli d'espérance. Je veux partir le cœur rempli d'espérance. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Ces choses-là, Seigneur, je les dépose. Je ne veux pas les regarder. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien, on le sait. Peut-être même dans ma propre vie, Seigneur, aide-moi. Mais je ne vais pas regarder ces choses. Quand il est dit, vous savez, examinez-vous vous-même. Ce n'est pas faire de l'introspection morbide. Examinez-vous vous-même, pourquoi vous faites? Qu'est-ce qui est écrit après? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et alors? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance. Examinez-vous vous-même, ça veut dire quoi? Si vos yeux sont fixés, sur qui? Sur vous, sur Dieu. C'est ça, voyez? Mais Seigneur, ouvre mes yeux. Moi, je veux être rempli d'espérance. Parce que c'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu va créer des choses nouvelles. Mais on ne peut pas, même pas s'imaginer tellement ça sera merveilleux. Et il nous faudra toute l'éternité. Mais mes frères et sœurs, moi je vous le dis, Dieu va donner des choses nouvelles. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Vous savez, c'est la fête des morts aujourd'hui. C'est la fête des morts. C'est pour ça que c'est jour férié. La fête des morts. La fête des morts. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des gens qui ne se parlent pas dans la famille. Ça peut arriver, ça, c'est pas, je le comprends. Mais par contre, quand ils sont morts, ils vont sur la tombe offrir des fleurs aux gens qui sont morts. On se moque des Africains qui amènent à manger, vous savez, certains animistes qui amènent à manger sur les tombes en Afrique. C'est vrai, ça, vous savez, vous le savez. Bon, c'est pas grave. Mais nous, on amène des fleurs aux gens qui sont morts. Les fleurs, moi, je pense qu'il vaut mieux les offrir quand les gens sont vivants. Non ? C'est comme dire « je t'aime ». Il vaut mieux le dire aux gens quand ils sont vivants. Oui ou non ? Vous dites aux gens que vous les aimez ? C'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre fille « je t'aime » ? C'est quand ? Que vous avez dit à votre maman « je t'aime ». Vous avez vos parents ? Ben ouais. Il y a des gens que je n'ai jamais dit à ma mère que je l'aimais. Eh bien, commencez. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est biblique, cette grâce de vivre ces choses. Voilà, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, tout est écrit, tout ce dont on a besoin. Alors moi, je vais me rassasier, je vais me réjouir en espérance. Est-ce que c'est écrit, réjouissez-vous en espérance? Oui, c'est écrit, hein? Ayez en pour casque l'espérance du salut. Le casque, ça protège quoi? Ça protège quoi, là, le casque? Ça protège le cerveau. Et je peux vous dire que notre cerveau, parfois, ça chauffe. Hein? Et je crois qu'on a besoin d'être consolé, rempli d'espérance. Mes frères et sœurs, on a besoin d'une espérance vivante. Je termine avec un verset auquel je pense souvent quand je pense aux pécheurs. C'est un verset qui fait... Ça fait sourire. Enfin, ça fait sourire. Oui, parce que ça indique bien l'espérance des pécheurs. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur ce texte dans le livre de Job. Quand je l'ai lu la première fois, ça m'a archi éclairé. Parce que je me suis dit, mais je ne veux pas ressembler aux païens. Je ne veux surtout pas ressembler aux païens au niveau de l'espérance. Regardez ce texte. Job chapitre 8, verset 13. C'est un verset, ça fait pitié, ça fait pitié. Mais ça indique bien ce que vivent les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas d'espérance. Job 8, il parle des pécheurs, hein. Alors, et les rétrogrades, bien sûr. Job 8, verset 12. Encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra, son assurance est brisée, son soutien, qu'est-ce que c'est son soutien ? Une toile d'araignée. Imaginez, vous descendez à la cave, il y a une toile d'araignée. Vous glissez, vous vous accrochez à la toile d'araignée. À quoi ça va vous servir? Est-ce qu'elle va vous retenir, la toile? Et Dieu compare l'espérance des impies ou des rétrogrades à une toile d'araignée. Moi, je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Si vous êtes en Dieu, votre espérance, elle est éternelle. Elle est solide. Elle est vivante. Et si Dieu dit conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu avec cette grâce de voir ces choses nouvelles. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? On a besoin d'espérance. Vous savez, le diable, c'est un voleur. C'est pas vrai? C'est un voleur. C'est écrit, le diable, il est là que pour voler, dérober, détruire. Égorgé. Le diable, il détruit. Le Seigneur, lui, il console. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine en priant, disant Seigneur, ouvre nos yeux. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il va le faire? Mais bien sûr qu'il le fera. Il ne peut pas ne pas le faire. Vous êtes d'accord qu'on le lui demande? Que demain matin, on prenne la Bible dès qu'on se lève, même si c'est qu'un verset ou trois. Mais Seigneur, ouvre mes yeux et je serai rassasié. Rassasié de pain. Seigneur Jésus, oui, tu nous as tout annoncé à l'avance pour que notre âme soit rassasiée de mets succulents et grands, pour que jusqu'à la fin nous ayons une pleine espérance. Seigneur, c'est sûr que quand nous anticipons sur le peu que nous comprenons de l'Apocalypse, nous te soupçonnons de nous préparer quelque chose de merveilleux. Merci Seigneur. Oui, nous voulons entrer dans les portes de la Sainte Ville. Nous voulons y entrer. C'est pour cela que jusqu'à la fin, nous voulons garder cette joyeuse espérance.
Seigneur, ouvre nos yeux vraiment, afin que nous soyons rassasiés. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous, tout en lisant ta parole, nos yeux étaient aveugles et fermés. Seigneur, pardon. Nous voulons redécouvrir cette espérance glorieuse, cette espérance vivante, non seulement pour nous, mais afin d'être des sources de bénédiction aussi pour les frères et les sœurs, afin de nous communiquer nous-mêmes de l'espérance, de nous exhorter les uns les autres chaque jour, jusqu'à ce jour où tu reviendras nous chercher. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ta patience. Aide-nous, Seigneur, à être ces chrétiens qui feront du bien à tous ceux que nous pourrons côtoyer. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.